Ahora, Canal Español.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, Kiara, good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland. Alors, dans le studio, il devrait y avoir une personne en plus qui est partie chercher un gâteau, c'est ça, Victor?
Oui.
Voilà, donc il y a, bah oui, en attendant, il y a Victor à la technique. Bonsoir, Victor.
Coucou.
Coucou. Il y a Stéphane à l'animation, pour une fois. Bonsoir. Et il y a Séverine, là, voilà. Elle a amené son thé et son gâteau. Vas-y, dis bonjour.
Ça y est, on est
bonjour.
En direct.
Voilà.
Allez, bonjour à tout le monde.
Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de... je ne sais pas très bien de quoi Séverine va parler, mais moi, j'ai amené des pages de notes sur la température.
Je suis venue te donner
la réplique.
Mais moi, je parlerai un peu de Diwali, où j'ai été cet après-midi.
Voilà. Donc la température, on ne va pas juste parler de la météo, comme les kiwis ont l'habitude, mais on va parler de c'est quoi la température, comment on est arrivé à définir le concept de température, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est aussi lié au fait que cette année, on a redéfini l'unité de température. Personne ne l'a remarqué, mais la redéfinition est peut-être un peu subtile, mais on va un peu en parler... on commence par une petite musique, Victor. On avait sélectionné une musique de Vincent Delerme qui s'appelle Sépia sur les doigts, c'est ça? Sépia plein les doigts, voilà.
Oui.
Voilà, on envoie Sépia plein les doigts de Vincent Delerme. Go!
Je comprends pas le titre. Sépia?
Sépia, la couleur sépia.
Oui, oui.
Sépia plein les doigts.
D'accord. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui développe ses photos, peut-être.
Voilà. Go pour ses. Vas-y, Victor, envoie.
Tiens, tiens, les pensionnats. Les chanteurs à croix de bois, les taloches, les coutriques, la Troisième République. Tiens, tiens, les belles images, les enfants du marécage, le vrai cours des vrais fruits dans une vraie épicerie. Noir et blanc sur poster. Maréchal, nous voilà. Du sépia plein les doigts. À quoi elle pense en s'endormant? Cette jolie France, confiture bonne maman. Elle pense pareil, pareil qu'hier. Avant Simone Veil, avant Badinter. On respirait du jasmin, du muguet, et l'air à plein poumon dans les mines de charbon. Les chansons d'avant-guerre, ça on savait les faire. Viens, poupoulu, pépette, alors on se fait pouet, pouet. Ça repart à l'envers, porte-plume d'écolière. Maréchal, nous voilà, du sépia plein les doigts. À quoi elle pense en s'endormant? Cette jolie France, tartelette bonne maman. Elle pense pareil, pareil qu'hier, avant Simone Veil.
Voilà, c'était Vincent Delerme, Sépia, plein les doigts. C'est pas très bien quel est le sens de cette chanson, mais... T'as écouté, toi, les paroles?
Je recherche une musique indienne.
Tu recherches une musique indienne, ok. Alors, donc moi, je voulais parler de la température et comment on est arrivé à construire des thermomètres et la science derrière, finalement, la température.
Oui, d'accord, c'est plutôt ton domaine.
Voilà, c'est pour ça qu'il me fallait quelqu'un qui n'y connaissait rien pour me
poser des questions.
Sinon,
parfait.
J'aurais parlé pendant une heure sans m'arrêter.
Non, avec moi, je vais t'arrêter dès que je ne comprends pas. Toutes tes
donc
deux
voilà,
minutes.
Le rôle de Séverine et de Victor, hein, il peut aussi poser des questions.
Je suis sûre qu'il comprend mieux que moi, Victor.
Voilà. Donc, évidemment, le concept de chaud et froid, c'est quelque chose qu'on expérience très tôt.
Qu'on expérimente,
qu'on ressent.
Voilà, plutôt.
Que tout le monde ressent et qu'on ressent depuis des siècles et des millénaires. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, à un moment donné, les gens, ils ont voulu quantifier ce concept de chaud-froid. Parce qu'au début, c'est très subjectif. Par exemple, si on va à la plage et qu'on demande, est-ce que tu trouves si l'eau est chaude aujourd'hui? Il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, elle est super bonne aujourd'hui », et le même jour, dans la même condition, le voisin va dire « Oh non, je trouve qu'elle est froide ».
Oui, tout à
donc,
fait.
Ça dépend de chacun. Ça dépend aussi de ce qu'on a fait jusqu'avant. Si par exemple, je mets ma main dans un bac d'eau chaude et que juste après je la mets dans un bac d'eau tiède, je vais avoir l'impression que c'est plus froid. Que si je mets d'abord ma main dans un bac d'eau froide et puis dans
c'est
le
c'est l'histoire de la grenouille qui finit par être ébouillantée parce qu'en fait elle on la met en fait c'est pour montrer comment les gens sont elle est fermée la porte.
Attendez, on a un visiteur là, Anatole qui débarque, je sais pas très bien pourquoi, et Caroline aussi.
Ah ben tout le monde est là en plein milieu.
Caroline qui a décidé que vous voulez aller maman.
Asseyez-vous.
Voilà, on a de nouveau.
Nous sommes en direct.
Prenez un micro et faites pas de bruit.
Ouais,
donc
oui.
Voilà, de quoi on disait la grenouille. Ouais,
en fait, c'est l'histoire de la grenouille ébouillantée. C'est pour montrer comment les êtres humains sont complètement manipulés, mais gentiment, et on est brainwashed. Donc, on met des grenouilles dans un bain d'eau chaude, tiède, et puis on augmente la température et elles se sentent bien, jusqu'au moment où elles sont en fait complètement ébouillantées, cuites, mais elles se rendent pas compte. Donc elles essayent même pas de s'échapper et de sauter de la casserole.
Le corps humain est un petit peu plus malin, je pense qu'à un moment donné, on a envie de sortir. Hein. Mais donc voilà, donc c'est très subjectif.
Oui, le corps humain, mais enfin les grenouilles, elles ont un petit cerveau.
Alors, il y a aussi d'autres effets. Par exemple, si on prend une barre du bois et du métal à la même température, quand on touche le bois, on aura l'impression qu'il est plus chaud.
Oui, tout à fait.
Métal.
Oui.
Et en fait,
c'est
ça,
subjectif, ça, parce que
c'est
moi,
pas
ça,
subjectif,
ça me paraît
en fait,
vraiment.
C'est simplement lié que notre sens de chaud-froid n'est pas directement lié à la température.
Non.
En fait, ce qu'on ressent quand on touche, en fait, si on touche quelque chose de froid, ce qui se passe, c'est que la chaleur de notre corps coule vers l'objet froid.
D'accord.
Et ce qu'on ressent, c'est cette chaleur qui part.
Oui.
Et en fait, comme le bois est un bon isolant thermique par rapport au métal,
on sent moins de chaleur
qui coule vers le bois. Il y a plus de chaleur qui coule vers le métal que vers le
donc
bois.
Donc on ressent une perte de chaleur plus importante quand on touche du métal
même
que
si
quand on touche du bois.
D'accord. Donc en fait, ce qu'on ressent, c'est vraiment en anglais, on dit the heat flow.
Et est-ce qu'on peut vraiment mesurer la température d'un métal et la température d'un morceau de bois?
Oui, il y a des thermomètres qui vont vraiment mesurer la température.
Et le métal sera plus froid?
Si, dans mon exemple, on l'a supposé à la même température.
Ah d'accord, mais on ressentira...
Mais donc ça prouve encore que notre expérience de la température n'est pas ce qu'un thermomètre dit.
D'accord, c'est subjectif donc.
Non seulement c'est subjectif, mais c'est pas vraiment ça qu'un thermomètre mesure non plus.
Et depuis quand on a commencé à vouloir mesurer la température?
Alors voilà, j'ai justement sur ma feuille, là, la prochaine section, c'est l'histoire. Et donc,
moi, je fais ça un petit peu plus vieux.
Donc, les premières choses qu'on a, que les gens ont un peu inventées, c'était pas un thermomètre, c'était ce qu'on appelle un thermoscope. Donc, ça permettait de visualiser si quelque chose était froid ou chaud, ou plus froid ou plus chaud.
D'accord.
Et donc, ça a commencé déjà il y a 2000 ans.
Un thermoscope, on en avait au temps de Jésus.
Dans la Grèce antique. C'est là que
Jésus,
la science de l'Antiquité s'est développée en premier. Et donc,
c'est les Grecs qui ont inventé ça.
Voilà. Et en fait, ils utilisaient le fait que ils prenaient une sphère de verre dans laquelle il y avait de l'air et de l'eau. Et quand les choses... Donc, en imaginant un tube coudé avec de l'eau et de l'air dans une partie qui est fermée. Quand il fait plus chaud, l'air se dilate, ça pousse l'eau vers le bas, donc ça change le niveau d'eau.
D'accord.
Ça permet de visualiser un changement de température. Mm-hmm. Alors, bon, ça, c'était il y a 2000 ans. Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, pendant plus ou moins 15, 16 siècles.
Mais 500 ans, on a continué avec un coup de thermoscope.
On a mis du temps à comprendre ces choses-là. Et donc finalement, il y a Galilée, toujours Galilée, là, qui a découvert Jupiter, le télescope, ces machins-là.
Mais attends, tu passes vite sur lui.
Non, mais je parle de ses autres réalisations. Et donc Galilée, donc fin du... C'est le 16e siècle encore, en 1593.
Oui.
J'ai toujours un décalage, je sais qu'il y a un décalage de 1, mais
oui,
je sais pas dans quel sens. Fin du 16e siècle.
Puisque, rappelle-toi qu'on est au 21e siècle,
voilà,
et on commence par... Ça
exactement.
Commence 2000.
Donc il arrive avec aussi son propre design, son propre modèle de thermoscope, qui est de nouveau basé sur ce tube inversé, mais enfin qui est un peu plus précis, un peu mieux fichu. Et à l'époque déjà, il y a des écrits qui disent qu'un collègue de Galilée qui s'appelle Santorino aurait utilisé ça pour mesurer si les gens avaient de la fièvre.
Ah, d'accord. Donc comment on fait? On l'appliquait sur le corps?
Ça je sais pas, j'ai pas lu tous les détails. Mais donc le problème à l'époque, c'est que le design était tel que le tube qui contenait de l'air était ouvert. Et donc quand c'était sensible à la pression atmosphérique aussi, si la pression changeait, ça changeait aussi le niveau de l'eau. Quoi.
D'accord.
Et donc bon, grande idée évidemment, début du 17e, quelques années après, on ferme le tube. Mais le problème à l'époque, c'est qu'il y avait différentes personnes. Bon, ils ont écrit ça s'est répercuté en Europe. Il y a différentes personnes qui ont construit différents thermoscopes. Mais il n'y avait pas d'échelle commune. Donc, le thermoscope de Galilée, il mettait une barre rouge, ce qui voulait dire ça, et le thermoscope de Monsieur.
On s'était pas mis d'accord, donc c'était
voilà,
embêtant.
C'était pas mis d'accord. Ouais. Et donc la prochaine étape, c'était de définir une échelle.
Mm-hmm.
Alors petit, pour faire un interlude ludique. Imaginons qu'il fasse très chaud en été à la maison, et alors on a une grande idée, c'est je vais ouvrir la porte du frigo,
oui.
Et comme ça mon frigo va refroidir la pièce. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la pièce va devenir plus froide? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Séverine?
Non, mais c'est une très mauvaise idée.
Pourquoi?
Pour faire perdre toute la force de son frigo, il y a pas mieux, quoi.
Ok, mais bon, indépendamment de.
Parce que c'est pas. Non, il y a.
Est-ce que ça va marcher déjà?
C'est sûr que non.
Est-ce que la température de la pièce va descendre quand on ouvre la porte du frigo?
Ça dépend de la taille de ta pièce.
Non.
Ah bon?
On suppose. Mettons qu'on est dans une pièce.
Tu prends
bien
la température,
isolée, d'accord. Bah, mettons qu'on a une petite pièce, une petite pièce bien fermée, bien isolée. Je mets un frigo au milieu. Je mets le frigo en marche. J'ouvre la porte du frigo. Est-ce qu'il va faire plus
froid?
Ah
bah
froid,
oui, si tu l'ouvres à un moment, longtemps, pendant une heure, je pense que ça va peut-être faire refroidir la température de la pièce d'un degré.
Pas du tout.
Le frigo il chauffe, non?
En fait, ce que fait le frigo, c'est qu'il prend la chaleur de l'air qui est à l'intérieur du frigo et il la rejette à l'extérieur par le radiateur qui est derrière.
Mais donc il chauffe.
Et donc en fait, une fois que tu ouvres le frigo
mais
il va faire.
Mais moi, il chauffe pas mon frigo, derrière.
Si tu mets ta main derrière, tu verras que ça chauffe. Et le problème, c'est qu'un frigo, comme n'importe quelle machine humaine, n'est pas 100% efficace.
Mais ça compense pas le froid qu'il fait?
Non, parce qu'en fait,
chaleur.
Le moteur du frigo n'est pas 100% efficace, et donc la chaleur produite par le moteur est en fait en supplément de ce que. En fait, le frigo va simplement prendre la chaleur de l'air et l'acheter derrière. Ça fait rien parce que tout est ouvert. Dans notre exemple, j'ai ouvert la porte du frigo. Mais en plus, le moteur est occupé à chauffer parce qu'il n'est pas 100% efficace.
Je pensais que le froid.
Le bilan net, c'est qu'on va chauffer la pièce.
Je pensais que le froid fabriqué par le frigo. Enfin, le froid.
Ah, donc c'est quoi le froid?
C'est ça. Non, mais je pensais que le frigo qui est à quoi 3-4 degrés,
ouais.
Donc une température, la pièce elle est peut-être à 25, il y a quand même plus de 20 degrés d'écart. Je pensais que ça fabriquait, qu'il n'y avait pas de chaleur de 20 degrés derrière.
Ok, donc en fait ce qui va se passer, je suis d'accord avec toi qu'au moment où tu ouvres le frigo, l'air froid du frigo va se mélanger avec l'air de la pièce. Ça va refroidir un petit peu l'air de la pièce.
Mais c'est ça que je pensais.
Mais sur le long terme, le moteur du frigo en fait, va générer plus de chaleur.
Oui, bon, alors il faut parler de long terme, machin.
Maintenant, il y a un concept là qui est intéressant, c'est quoi le froid et c'est quoi le chaud? En fait, ce que fait un frigo, le frigo ne fabrique pas du froid. Il prend la chaleur de l'air qui est à l'intérieur du frigo et le rejette en dehors du frigo. Donc il transfère de l'énergie en fait.
D'accord.
Il prend l'énergie de l'air du frigo, il la met dehors. Et en fait, j'en ai pas encore parlé, mais ce que mesure la température vraiment, c'est le contenu énergétique de la matière.
Une
matière
donc,
chaude a plus d'énergie qu'une matière froide.
D'accord, c'est ça.
En fait, la température, comme on le voit aujourd'hui, c'est l'agitation moléculaire, pour utiliser...
L'agitation.
On peut passer cette chanson, tiens, plus tard, tout à l'heure. L'agitation moléculaire.
Oui.
Ah. Donc c'est quoi la température? En fait, quand un objet qui est plus chaud, c'est un objet dont les atomes s'agitent plus.
Donc un atome, c'est ce que j'allais penser.
Ils vibrent, en fait, les atomes.
Donc le nucléaire, c'est une agitation moléculaire multipliée par...
C'est une manière de produire de la chaleur. Mais donc la température elle-même, c'est une mesure de la manière dont les atomes s'agitent ou vibrent.
D'accord. Et comment on fait pour que les atomes s'agitent plus? Qu'est-ce qu'on...
Ben, il faut leur donner, si, indépendamment de la manière dont on le fait, il faut qu'ils aient plus d'énergie pour pouvoir s'agiter plus.
D'accord.
Donc la température est indirectement une mesure de combien il y a d'énergie dans ta matière.
Mmh.
Et donc refroidir une matière, c'est en fait enlever de l'énergie aux atomes, et comme ils ont moins d'énergie, ben ils s'agitent moins. Quoi.
Donc c'est ça, les gens qui s'agitent beaucoup, ils produisent de la chaleur, les gens qui sont statiques, on se refroidit.
Voilà.
C'est exactement ce qui nous arrive. Donc on peut le démontrer à l'échelle humaine.
Voilà. Alors, on va encore un peu parler des échelles avant de mettre encore de la musique, là. Il y a des gens qui entrent et qui sortent dans le studio.
C'est vraiment le moulin, ici.
Bon, maintenant, on ferme la porte, s'il vous plaît, merci. Et on bouge plus, ok. Donc, les échelles. Alors, il fallait se mettre d'accord sur une échelle pour que les gens parlent de la même chose. Alors, le premier qui a trouvé une échelle, il y a eu plusieurs échelles qui ont circulé. Il y a eu Newton qui a eu une échelle. Alors, je ne sais pas pourquoi, lui, il avait une échelle avec 12 degrés.
Alors, attends, Galilée, c'était en 1500 et quel ?
Fin du XVIe siècle. Newton, c'est à peu près 100 ans plus tard, c'est 1700,
d'accord,
début 1700.
D'accord. Pendant, donc jusqu'en 1600 et quelques, tout le monde avait
des
échelles.
Enfin, personne n'a eu l'idée de mettre une échelle. En fait.
Et est-ce que ça existait en Asie, en Inde ? Est-ce qu'il y avait déjà des thermoscopes ?
Ça, j'ai pas...
Tu parles pas mal d'Europe.
Ouais, mais bon, c'est une bonne question. Mais donc, en fait, l'idée de à vous mettre une échelle, c'est assez facile. Quoi. Puisqu'on a ce niveau d'eau qui monte et qui descend dans le thermoscope,
d'accord.
On peut simplement mettre des graduations avec des chiffres.
Oui.
Et donc, même ce concept-là a mis un peu de temps à venir. Mm-hmm. Et puis, une fois qu'on a mis des graduations avec des chiffres, bah, il fallait se mettre d'accord sur les chiffres.
D'accord.
Alors, Newton a fait une échelle avec le point de congélation de l'eau qui était à zéro et la température du corps humain qui était à 12. Je sais pas très bien pourquoi 12.
Je sais pas.
Puis il y a un Danois, un monsieur Romer, qui lui a une échelle avec 60 degrés entre le point d'ébullition et le point de congélation de l'eau. Enfin non, c'était pas de l'eau, c'était de l'eau salée en son cas.
Ah non.
Et puis il y a Fahrenheit, c'est l'échelle d'après. Celui-là, on s'en souvient,
oui.
On le connaît encore aujourd'hui.
Oui.
C'est un Hollandais.
Oui.
Donc il a visité ce monsieur Romer et il s'est dit tiens c'est une bonne idée cette échelle et donc il a décidé d'inventer sa propre échelle. Alors il a beaucoup chipoté Fahrenheit, hein, il y a eu beaucoup de variations chez Fahrenheit. Et au début il a d'abord essayé de réaliser quelque chose qui était le plus froid possible et ça ce serait sans zéro. Et donc un hiver, vers 1708, là, il faisait très froid dans sa ville en Allemagne, et donc il a décidé que la température
en
la
Hollande.
Plus basse, en Hollande, la température la plus basse cette année-là pendant l'hiver, ce serait son zéro.
D'accord.
Qui évidemment n'est pas très pratique, hein, si tu dois dire à ton voisin deux ans
tu
plus
te
tard, voilà ce que c'est mon zéro.
En 1704 de
Mais
l'hiver.
Bon, c'est de là qu'il est parti.
À Amsterdam.
Et puis après, il est parvenu à réaliser ça avec un mélange d'eau et d'eau salée et de glace. Il a, dans une certaine proportion, le point de congélation de ce mélange, c'était son zéro, qui reproduisait plus ou moins.
Mais attends, un point de congélation, c'est pas le même à chaque fois?
Qu'est-ce que tu fais la même à chaque fois?
Ben, justement, ça pourrait être une très bonne base de départ. Quand l'eau se congèle, hop,
ouais,
on met un petit trait. Donc ça, c'est notre base de zéro.
Mais là, en fait, le problème, c'est qu'une fois que l'eau est gelée, il ne savait pas mesurer plus bas que ça. C'est pour ça qu'il voulait un zéro qui était plus bas.
Ah.
Et en fait, l'eau salée gèle à plus basse température.
Que l'eau.
Donc il a imaginé un certain mélange. Il a dit je prends un litre d'eau et j'ajoute 300 grammes de sel. Je ne sais pas trop bien ce qu'il
D'accord.
a fait. Mais... Donc ça, c'était son zéro.
On
a un micro qui ne fonctionne pas, là, oui.
Normalement, l'eau salée, elle ne congèle pas à moins 7.
Ça dépend du sel que tu mets. Là. Si tu mets du sel de cuisine ou il y a d'autres sels. Hein, donc, par exemple, la vodka au surgélateur, ça ça congèle pas. Hein.
Je vois tout le monde mettre sa vodka au congélateur. Non, c'est pas pour la congeler, c'est pour la garder bien froide.
Il y a des gens qui veulent la boire vraiment
très,
bien
très
frappée,
froide.
Bien froide. Mmh. Mais elle ne gèle pas, même à moins 20, elle ne gèle pas parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Enfin, donc voilà, il y avait une recherche d'un zéro. Et alors, M. Fahrenheit, lui, il est arrivé avec la température du corps humain. Alors au début, il avait choisi 100. Et puis il a changé d'avis. Et la raison pour laquelle il a changé d'avis, c'est qu'il avait remarqué que sur son échelle, l'eau, donc l'eau normale, se congelait à 30 degrés sur son échelle.
D'accord.
Et donc il s'est dit, bon, 30, 100, ça fait 70 unités entre les deux. Alors ça l'embêtait parce que quand il devait construire son thermomètre, il devait faire des graduations et diviser en 70, c'est pas si facile.
C'est pas génial.
Alors ce qu'il s'est dit, ben, 30, je vais mettre ça à 32. Et donc c'est pour ça que maintenant le Fahrenheit, 32 degrés Fahrenheit, c'est le 0 degré centigrade. Mm-hmm. Et la température du corps humain, plutôt que de mettre 100, il est mis à 96. Et la logique, c'était qu'entre 32 et 96, ça fait 64. Et 64, c'est facile parce que tu divises par 2, par 2, par 2, par 2, par 2, et t'arrives à 64. Donc il prenait son échelle, il mettait une barre au milieu, puis chaque mois, il mettait une barre au milieu, et ainsi de suite. Mm-hmm. Comme ça, il pouvait facilement faire son thermomètre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'échelle Fahrenheit, 32, c'est la congélation de l'eau, 96, c'est le...
Mais c'est pour ça que personne n'utilise Fahrenheit, mais tout le monde veut des Celsius.
Les Américains,
ouais, ils font jamais comme tout comme les autres. Hein, voilà. Les Anglais, ils utilisent Fahrenheit?
Non, ils sont passés en degrés.
Au Celsius.
Ouais. Et donc, après, il y a aussi eu Celsius, justement, c'est un peu plus tard.
C'est le nom de quelqu'un?
Oui, monsieur Celsius. Mon micro a disparu. Anders Celsius, il s'appelait, il était quoi?
Suédois,
voilà, magnifique. Victor, c'est ça. Et donc, lui, il a choisi ce qu'on considère aujourd'hui comme plus logique, hein, 0 degré, congélation, 100 degrés, ébullition de l'eau. En fait, initialement, il l'avait fait dans l'autre sens, c'était 100 degrés, peu importe. Ouais. Et puis, quand Fahrenheit a comparé son échelle à Celsius...
Ça s'est fait à peu près en même temps, excuse-moi.
Fahrenheit, c'était 1724, Celsius, 1742, donc c'est genre 20 ans après.
Ah oui, moi, c'est...
Mais Fahrenheit était encore...
C'était contemporain.
Oui, tout à fait. Et donc, Fahrenheit, après, a constaté que les points d'ébullition sur son échelle à lui, c'était 212... Et aujourd'hui, en fait, c'est comme ça qu'on définit le Fahrenheit. 212, c'est l'ébullition, et 32, c'est le...
C'est le 2, d'accord.
Et donc, l'échelle Fahrenheit a beaucoup bougé au cours des temps, d'un degré par-ci, d'un degré par-là. Mm-hmm. Maintenant, elle est...
Bah, tu m'étonnes avec 212 degrés.
C'est pas très pratique. Hein.
Non, pas du tout.
Je sais pas pourquoi les Américains continuent à faire ça. Le seul truc intéressant, je trouve, donc, puisque le corps humain, la température du sang est définie comme étant 96... tu vois, quand on te dit aux États-Unis il fait 100 degrés aujourd'hui, ça te donne...
Oui.
Tu peux dire c'est plus ou moins la température du sang. Tu sais que c'est très chaud. Quoi. Ouais. Il va faire 30.
Mais il n'y a que ça qui te donne une notion. Parce que sinon, en degrés, on sait très bien que 40 degrés, il fait très très chaud dehors.
Les Américains,
une eau à 17 degrés, c'est pas très chaud. Une eau à 14 degrés, faut pouvoir se baigner.
Les Américains,
une eau à
26 degrés. Avec ça, ils ont ce repère. Hein.
Oui, avec les Américains. Hein. On a qu'à les laisser.
Il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est le plus gros que je peux penser. Ouais. On peut mettre une deuxième musique, Victor, non? Avant de parler de la suite, là. Qu'est-ce que tu nous proposes? On avait choisi un deuxième morceau qui est là tout en haut, là.
Samedi soir sur la Terre.
Bon, on est dimanche soir, mais ça ira quand même.
Ouais.
Et c'est de qui, Samedi soir sur la Terre?
Francis Cabrel.
Ah, c'est beau.
Let's go. Samedi soir sur la Terre, Francis Cabrel.
C'est parti.
Il arrive, elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. « comme elle s'est avancée un peu. D'un coup leurs regards se croisent. Après c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Ils sont obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après, c'est juste une aventure. Commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. Une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà fini. Oh, on en ferait autant si c'était à refaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Samedi soir.
Voilà, on abrège un peu le long le long, le la longue finale musicale, voilà. Donc de, c'était Francis Cabrel.
De Francis Cabrel.
Dimanche soir sur la Terre, samedi soir sur la Terre.
Bah non, mais dis, vas-y, dis ça.
Donc on en était avec toutes nos échelles, hein, donc bon après 1740, donc il y avait une échelle, enfin il y a eu plusieurs échelles, l'échelle Celsius et Fahrenheit était plus ou moins établie et les gens savaient comment passer de l'une à l'autre en tout cas. Mm-hmm. Alors après là, une autre question qui s'est posée, plus ou moins à la même époque que toutes ces échelles étaient discutées, c'était comment froid quelque chose pouvait être, toi. On s'est demandé, ok, on peut refroidir les objets, est-ce qu'on peut les refroidir à l'infini? Ou bien est-ce qu'il y a une limite, toi? Est-ce qu'il y a un maximum de froid possible? Et donc, c'est déjà discuté au XVIIe siècle. Il y a des écrits vers 1660. On trouve des phrases du genre que quelque part, il y a un objet qui est suprêmement froid et que c'est cet objet-là qui communique le froid aux autres objets et qu'on ne peut pas être plus froid que cet objet suprêmement froid. Un peu comme on pourrait imaginer, c'est le vide de l'espace, c'est l'objet le plus froid et c'est lui qui donne le froid aux autres objets. Donc ils imaginaient déjà ça. Après début 1700, donc quand on commence à parler de toutes ces échelles, il y a des gens qui observent, c'est un Français d'ailleurs, Guillaume Hamilton s'il s'appelait.
En quelle année tu dis ?
1702, il vient avec cette idée. En fait, il avait remarqué...
Début 18e alors.
Ouais, début 18e. Il avait remarqué que l'élasticité de l'air diminuait avec la température. En fait, une autre manière de voir ça... C'est que si on remplit un ballon d'air et qu'on le refroidit, ben, le ballon se contracte parce que l'air prend moins de place.
Donc si on prend un ballon, on souffle dans un ballon, on fait un nœud et on se met dans une pièce froide...
Le ballon va changer de taille, oui.
D'accord.
C'est une expérience classique qu'on fait quand on fait des démonstrations dans les écoles. On prend des ballons et on leur verse de l'azote liquide dessus, qui est à moins de 100 degrés. Et donc le ballon se racrapote complètement. Ah ouais. Il devient une espèce de petite peau.
Ah ouais. Et on le fait chauffer avec un... On met
non,
un
tu sens simplement, tu l'enlèves de l'azote liquide, il est en contact avec l'air à 20 degrés, et le ballon regonfle tout seul. Quoi.
Donc on montre que l'air peut se recroqueviller.
Voilà.
Peut se... Comment dire?
En fait, il diminue de volume avec la température.
Ouais,
si tu mesures l'élasticité de l'air, tu vois, si tu mets de l'air dans un piston et que tu appuies,
et
tu lâches le piston il remonte, il y a une certaine élasticité. Et donc, Hamilton mesure l'élasticité à différentes températures et constate que l'élasticité diminue régulièrement. En fait, elle diminue proportionnellement à la température, on l'a observé.
D'accord.
Et donc, il se dit, il doit exister une température où l'élasticité et le volume va être zéro. Et donc il ne sait pas aller jusqu'à cette température, il n'a pas de choses assez froides, mais avec ses mesures, il met des points sur un graphe, et il peut extrapoler et il voit que ça va devenir zéro à une température d'environ moins de 140 degrés. Celsius, je parle en Celsius. Hein.
Ouais.
Alors,
ça nous arrange, merci.
En fait, il n'est pas loin de la bonne valeur. La bonne valeur, c'était moins 273, qui est le zéro absolu. Mais donc là, il a mesuré moins 240, c'était sa première tentative. Et donc lui considère que cette valeur, ça doit être le zéro de température, puisque une fois que le volume de son ballon est réduit à zéro, il ne peut plus être réduit plus. Quoi.
Et comment il a fait pour aller jusqu'à moins 240?
Il n'est pas allé, donc il fait des mesures à 20 degrés, 10 degrés, 0 degrés, moins 10 degrés, moins 20 degrés, il met ça sur un graphe, il voit que ça descend régulièrement, et puis il se dit, ok, si je pouvais mesurer, et à un moment donné, ce serait zéro. Si tu veux, il trace une droite à travers ses points, et regarde quand est-ce que sa droite passe par zéro.
D'accord.
Mais il ne sait pas aller jusqu'à zéro, mais il trouve que le zéro devrait être à moins 240, il n'est pas loin, et dans les années qui suivent, on va raffiner cette valeur, et on va trouver moins 273.
Ouais, là, moi qui suis pas scientifique, j'ai un peu du mal comment, où il met son zéro. Mais bon, tu m'expliqueras ça hors antenne.
Ouais, je t'explique hors antenne. En fait, tu mets des points sur ta feuille. Imagine que je mets des points sur ma feuille le long d'une ligne.
Oui.
Et puis, je sais pas, jusqu'au bas de la feuille. Mais si je trace une ligne qui passe par mes points, à un moment donné, cette ligne va croiser le bas de ma feuille.
C'est, j'ai compris.
Voilà.
Oui,
donc, c'est comme ça qu'il se dit, ok, là, j'avais 20, 10, 0, et là, ça doit être moins 240.
Merci.
Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ces mesures, il y a d'autres gens qui discutent, il y a d'autres gens qui font d'autres expériences, et mais tout le monde est plus ou moins d'accord qu'il doit y avoir une limite, mais la valeur de cette limite varie entre moins 240 et moins 3000 degrés. Donc,
mais comment on pense qu'il peut y avoir une limite? Toi, tu penses qu'il y a une limite?
À l'époque, c'était Edmonton, simplement parce qu'il observe que l'élasticité de l'air devient zéro à un certain moment, n'est pas nécessairement une preuve qu'il y a une limite.
Oui.
Ça lui donne l'idée qu'il pourrait y avoir une limite, je dirais. Mais après, les gens se disent qu'il y a une certaine logique et une limite pour différentes raisons. Mais en fait, il y a une très bonne raison pour laquelle il y a une limite. C'est qu'une fois qu'on accepte l'idée que la température est liée à l'agitation moléculaire, si les atomes ne s'agitent plus, parce qu'ils n'ont plus d'énergie, c'est on peut pas être plus froid que ça.
Oui, oui, puis il y a moins de.
Et donc la limite, c'est les atomes n'ont plus d'énergie. Oui. Donc, c'est ça qui définit les aurores absolues, ce qu'on appelle aujourd'hui.
L'immobilité.
Ben, à l'époque, on n'avait pas encore cette notion que la température c'était de l'énergie. En fait, l'idée c'était que les gens imaginaient qu'il y avait un fluide qu'on appelait le fluide calorique,
ouais.
Et quand on mettait un objet froid en contact avec un objet chaud, le fluide de l'objet chaud coulait dans l'objet froid.
Mmh.
Et c'était cet échange de fluide.
Un fluide invisible.
Voilà. Et ce fluide était considéré comme quelque chose de distinct de la matière.
Ah ouais.
Mmh. C'était quelque chose qui coulait entre les particules de matière.
En fait, c'est des ondes.
Non, c'est pas des ondes, mais c'est un fluide, le fluide calorique.
Non, mais je veux dire, en fait, c'est des ondes, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est...
Oui.
Non ?
Bah, disons que le fluide calorique n'existait pas, donc je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une onde, mais...
Mais maintenant, comment tu qualifies la chaleur comme une onde?
La chaleur est qualifiée par l'énergie. Tu vois, quand imagine t'as ta voiture, t'accélères. Une fois qu'elle est en mouvement à une certaine vitesse, elle a une certaine énergie qu'on appelle l'énergie cinétique.
Mais par exemple,
si la voiture cogne un mur, elle va casser le mur. Donc la voiture a dû donner de l'énergie au mur. Et au plus t'as de vitesse, au plus t'as d'énergie cinétique.
Par exemple, là, on parle de chaleur. Donc, t'as la main froide. J'ai dit, bah, je vais te réchauffer la main. Je te mets ma main. Qu'est-ce qui passe entre ma main et ta main?
Eh ben, en fait, les atomes vivent. En fait, c'est les atomes ont aussi de l'énergie cinétique. Au plus ils en ont, au plus ils s'agitent vite. D'accord. Mm-hmm. Donc, une main plus chaude a des atomes qui vivent plus vite qu'une main plus froide. Et quand nos mains sont en contact, il y a les atomes qui vibrent très fort qui sont à côté d'atomes qui vibrent moins fort. Et les atomes qui vibrent très fort tapent sur les atomes qui vibrent moins fort. Et c'est comme ça qu'ils les mettent en mouvement.
Mais c'est une onde. Tape. Je vois pas mes atomes qui vont taper les tiens.
C'est une oscillation des atomes, donc en ce sens.
C'est une onde, oui, c'est toujours ce que je vois ça comme ça.
Il y a de l'onde dans cette histoire.
Oui. Une onde, c'est une vague d'énergie.
En fait, c'est une vague, on parle de vague de chaleur.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui se passe quand un objet froid en contact avec un objet chaud.
Finalement, cette histoire de fluide, c'était.
Pas complètement côté de
non, la plaque, parce que intuitivement, c'est un peu ça, mais c'est pas. Si on est précis, c'est pas un fluide, c'est pas quelque chose de liquide.
Donc si on met si un objet chaud contre un objet froid, au début c'est au niveau de la surface, les atomes chauds d'un côté tapent sur les atomes froids de l'autre.
Ouais.
Et après ça, la première couche d'atomes froids devient un peu plus chaud, et cette première couche tape sur la deuxième couche qui devient un peu plus chaud. Donc il y a une vague qui s'avance.
Oui,
comme
oui.
Ça.
Oui, oui. C'est intéressant.
Donc l'image du fluide calorique n'était pas tout à fait fausse. Simplement, ils s'étaient pas rendu compte que c'était pas quelque chose qui était distinct de la matière. C'était pas la même chose que la matière.
Mm-hmm.
Ils imaginaient quelque chose de plus que la matière.
Mm-hmm.
Alors que c'était simplement le fait que la matière bougeait.
Et parce qu'ils n'ont pas encore décortiqué la matière.
Non, mais alors il y a une expérience très importante qui est venue en milieu du 19e siècle, en 1843, par un monsieur Joule. Je sais pas si ce nom dit quelque chose.
C'est très connu, Joule, oui.
Voilà, Joule, l'énergie, l'unité d'énergie, c'est le Joule.
L'unité calorique.
Voilà, l'unité d'énergie.
Mm-hmm.
Et donc, monsieur James Joule, il s'appelle.
Calorique, on dit ça, non? Calorifique, non.
Au début, on parlait de, il y a une autre unité qu'on appelait il y a le fluide calorique. Et donc, au début, quand on a compris que la température c'était de l'énergie, on a fait une unité qui s'appelait le calorie. Et après ça, on a aussi défini une unité qui est le joule. Bon, il y a une conversion joule-calorie, etc. Mais c'est pour ça que
tout le monde connaît le nom Joule.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Joule? Donc, son papa, c'était un brassier. Et donc, pour brasser la bière, il avait des machines qui agitaient la bière, pour bien mélanger les ingrédients. Et donc, grâce à ça, il connaissait pas mal de mécanique. Il savait construire des machines avec des engrenages, etc.
C'est un Français, Joule?
Non, c'est un Anglais. Il s'appelle James déjà. James Prescott Joule.
Ah zut.
Je pense qu'il est anglais.
J'aurais bien aimé un brasseur français. Mais... Ou belge. Ça aurait été bien.
Et donc, qu'est-ce que lui fait? Il fait une expérience qu'aujourd'hui on considère relativement simple. Mais... Donc, il prend un bac d'eau dans lequel il met un agitateur, une espèce de truc en bois avec des pales, qui est relié à une mécanique. Donc, il peut tourner son agitateur. Et la manière dont l'agitateur va tourner, c'est qu'il l'accroche à des poids. Et donc, quand le poids tombe, ça fait tourner l'agitateur.
Mmh.
Et en fait, ce qu'il constate déjà, c'est que quand il ajoute l'eau avec son agitateur, la température de l'eau augmente. Alors qu'il lui a pas donné de fluide calorique. Simplement en tournant la manivelle de son agitateur, qui est de l'énergie mécanique. À l'époque, il y a vraiment une distinction entre l'énergie mécanique et l'énergie calorique.
Mm-hmm.
On pensait que l'énergie calorique, c'était ce fluide calorique.
Mm-hmm.
Mais lui, il montre que simplement en tournant sa manivelle, sans apport de fluide calorique, il parvient à chauffer cette eau.
Mm-hmm.
Et puis il va un peu plus loin, il accroche des poids donc. Et en fait, à l'époque, on comprend le concept d'énergie potentielle. Quand un poids tombe, on associe une énergie au fait que pour remonter le poids, il faut dépenser une certaine énergie mécanique. Et donc, lui considère que ce qui se passe, c'est quand le poids tombe, il perd son énergie de hauteur, il transfère ça dans le liquide. Donc, l'énergie que le poids a perdue en tombant doit avoir été donnée à l'eau. Et avec ça, il établit l'équivalent entre la température sous forme énergétique et l'énergie contenue dans le poids qui tombe.
Tu m'as un petit peu perdu là.
Mais ok, bon. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'équivalence entre l'énergie mécanique et l'énergie de chaleur. Tu vois, pour monter un poids, il faut fournir une force, fournir une énergie mécanique. Mmh. Et lui, il montre que l'énergie qu'il met dans son poids pour le monter avant de le lâcher, bah, cette énergie va se retrouver sous forme de chaleur.
D'accord.
Et donc c'est comme ça qu'il parvient à montrer que la température n'est simplement qu'une forme d'énergie mécanique qu'on parvient à donner aux atomes en les agitant avec sa palette. Et donc, il remplace cette notion de fluide calorique par le fait que c'est les atomes, la matière.
Donc, les chercheurs ou les scientifiques se mettent d'accord.
Voilà.
Grâce à cette démonstration, ils n'ont pas encore une preuve visuelle, j'allais dire, mais ils ont une preuve mécanique.
Ils ont une preuve mécanique. Mais donc, le concept que l'énergie qu'on développait avec les machines mécaniques était finalement liée à l'énergie contenue dans un fluide de différentes températures est quand même très important. Ça montre que c'est la même chose, finalement. Qu'il n'y a pas la calorie d'un côté et la mécanique de l'autre. Quoi. Et donc, dès qu'on a compris ça, en fait, le concept du fait qu'il y a une température minimum vient naturellement. Parce que si on accepte l'idée que la température, c'est simplement les atomes qui s'agitent à une certaine vitesse,
mais
quand les atomes
ne
s'agitent plus, on ne peut pas aller plus bas. Et une fois qu'on a compris ça, donc c'est milieu du 19e siècle, il y a eu une espèce de course pour atteindre le zéro, pour essayer de refroidir le plus possible. Alors, ça a quand même pris un certain temps. Hein. Donc, en 1845, on arrive à moins 130 degrés. En 1877, on parvient à liquéfier l'air.
Mais comment ils ont fait ?
Avec des machines, avec des frigos sophistiqués.
D'accord. Enfin,
c'est aussi l'époque de la révolution industrielle, de la machine à vapeur.
Dans tous les sens.
Et donc il y a tout le développement de ce qu'on appelle des machines thermiques. Et grâce à ça, on comprend mieux la chaleur. On parvient à développer des frigos plus performants. Donc 1877, on liquifie l'air à moins 195 degrés. Je traduis, hein, parce que je suis belle, c'est moins 195. 1883, on liquéfie l'oxygène, moins 218. 1898, on liquéfie l'hydrogène à moins 252. Donc on commence à s'approcher de cette valeur de moins 273.
On liquéfie toutes sortes de fluides, de gaz, je veux dire. Oui.
Alors 1908, liquéfie l'hélium à moins 269. Donc on est 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Et puis après, on parvient à atteindre moins 272. Après, on est un peu coincé pendant un certain nombre de... Il va falloir une nouvelle technologie, le refroidissement par laser, pour aller plus bas. Et donc, finalement, on arrive en 1999.
Ah, quand même, ça a mis tout le siècle.
On arrive à 100 picokelvin. Donc, on n'a pas encore parlé du Kelvin. Hein.
Non.
Pas parlé de Kelvin.
Non.
Donc, Kelvin, c'est aussi un anglais, Lord Kelvin.
Et Kelvin.
Kelvin, voilà. Et donc, quand on a compris qu'il y avait ces zéros absolus, il a décidé d'introduire une nouvelle échelle de température, encore une, qui est l'échelle Kelvin, qui, en fait, choisit comme zéro les zéros absolus. Et pour le reste, est basée sur l'échelle Celsius. C'est-à-dire, quand on augmente la température de 1 degré Celsius, c'est la même chose que d'augmenter de 1 degré Kelvin. C'est simplement le zéro est à un autre endroit.
D'accord.
Et donc, le zéro Kelvin, ça correspond au zéro absolu, à moins 273. Et donc, en 1999, un an avant l'an 2000, on a 100 picokelvin. Donc, ça veut dire un 10 000e de millionième de degré au-dessus du zéro absolu.
Et qu'est-ce qu'on a liquéfié pour atteindre...
C'est des atomes froids, là. Ça n'a plus rien à voir.
C'est pas un gaz?
Un petit nuage là-dessus. Ça reste un gaz, même à cette température-là.
D'accord.
Mais donc, ça reste... Donc, c'est 100 picokelvin, c'est une toute petite quantité d'atomes. C'est quelques milliers d'atomes.
Les chercheurs aiment bien qu'on garde leur nom. Ça aurait été plus simple de se dire, voilà, on est à 200...
200 zéros absolus.
Non, mais on est à moins 274. Et puis...
Mais ce n'est pas nécessairement les chercheurs qui décident de garder leur nom. Souvent, il y a des chercheurs qui proposent une idée. Donc, j'imagine qu'il a proposé une échelle où le zéro serait à zéro absolu. Et puis, en fait, d'autres chercheurs, souvent, ce qui se passe, c'est que d'autres chercheurs se disent, je vais utiliser cette même idée. Et comme c'est l'idée de Monsieur Kelvin, dans mon article, je l'appelle l'échelle de Kelvin.
D'accord.
Et au cours du temps, au lieu de simplement parler de l'échelle de Monsieur Kelvin, ça devient l'échelle Kelvin. Donc, c'est comme ça que le nom... Mais en général, c'est pas le chercheur lui-même qui a suffisamment d'égo pour dire, à partir d'aujourd'hui...
Non, mais je remarque que je suis un petit peu dans tous ces... C'est non. Bah, c'est bien, c'est bien. On passe par.
Mais donc voilà, en 2014, un nouveau record pour un bloc de cuivre d'un mètre cube est refroidi à 6 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Mais donc là, c'est vraiment un gros objet, un mètre cube de cuivre.
Mais là, tu vois, on rentre dans des considérations qui sont bien pour les scientifiques.
Tout à fait.
Pour moi.
Alors, en termes de température naturelle, dans la température de l'univers moyen est de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu.
Quand on est dans l'univers,
donc
il fait très
froid.
Donc,
la moyenne de la température. On prend tout l'univers, y compris les planètes.
Heureusement qu'on a le soleil.
Il y a beaucoup de vide.
Quand on a le soleil, mais il ne faut pas qu'il nous réchauffe trop.
Et alors, la température la plus froide jamais observée dans la nature, c'est 1 degré au-dessus du zéro absolu. C'est une nébuleuse, la nébuleuse du boomerang. C'est la température la plus basse observée. Donc, elle est inférieure à la moyenne de l'univers. Donc, voilà.
Notre univers est froid.
Notre univers est froid. Notre petite Terre, c'est une bulle de chaleur au milieu du froid.
Notre petite Terre, c'est vraiment c'est la perfection. C'est vraiment parfait pour nous, pour vivre, pour les animaux. Mais c'est bien dommage qu'on s'en préoccupe pas mieux.
Tout à fait.
Qu'on foute en l'air notre protection.
Voilà, parce que l'univers est froid. Si on n'avait pas notre chaleur et la Terre qui garde un peu de chaleur, il ferait 2,7 degrés au-dessus.
T'inquiète pas, ça va se réchauffer rapidement. Mais
ouais.
Non, mais je veux dire, c'est qu'on fait pas attention à ça. C'est exactement la température qu'il nous faut. Je voudrais parler de Diwali avant qu'on finisse. Et je vois que Blandine.
Moi, j'ai encore des pages.
T'as trop à parler. Et Blandine demande sur quel téléphone appeler pour pouvoir parler
d'accord.
De.
Bon, attends, on va essayer quand même de terminer un
condense.
On va terminer l'historique et on parlera des définitions de l'unité plus tard. Donc, pour terminer avec l'historique, en 1954, on adopte le Kelvin comme unité de température officielle.
Pas Celsius.
Non, c'est le Kelvin. Mais le Celsius, en fait, est simple, c'est juste un décalage du zéro. Quoi.
D'accord.
Mais en fait, il y a un problème avec le Celsius. C'est que
mais tout le monde parle que de Celsius.
Oui, c'est parce que c'est la vie de tous les jours. On est entre 0 et 100 degrés. Quoi.
D'accord,
on
ne
va pas s'embêter à dire aujourd'hui, il fait 320 Kelvin. Quoi.
Oui, oui.
Le problème du Celsius pour les scientifiques, c'est les scientifiques qui veulent des choses bien précises. Le problème du Celsius, c'est que dire que le zéro est défini là où l'eau gèle. En fait, ça dépend de la pression. S'il fait moins... qu'est-ce que j'allais dire ? À plus haute pression, l'eau...
Le zéro ne sera pas au même endroit.
Le zéro ne sera pas au même endroit. Je suis occupé à réfléchir dans quel sens, mais maintenant, j'y arrive plus sur antenne avec ce stress. mais aussi...
Non, mais on comprend.
Une autre manière
c'est pas assez précis.
Ouais. Et par exemple, c'est aussi lié, je ne vais pas en parler maintenant, parce que sinon on n'aura certainement pas le temps de jouer au Diwali, mais je vais juste le mentionner. Par exemple, l'eau liquide ne peut pas exister dans le vide. Si on met de l'eau liquide dans le vide, il s'évapore.
Ah oui.
Et donc, pour maintenir de l'eau liquide, il faut une certaine pression. Et donc,
il faut qu'elle soit dans un récipient. Par exemple, les astronautes.
Mais il faut de la pression, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus qui appuie dessus.
Par exemple, des gens qui ont de l'eau dans une bouteille, ils ne pourront pas la boire ?
Si la bouteille est fermée, tout va bien. Mais... Ce que je dis, c'est que si tu mets de l'eau sur la Lune, imagine que tu arrives avec un bac d'eau ouvert sur la Lune, et elle va s'évaporer, elle ne peut pas rester sous forme liquide.
Elle va flotter. Ah,
une partie qui va s'évaporer, une partie qui va geler. Donc il va rester de la vapeur d'eau et de la glace, mais il n'y aura pas d'eau liquide.
Oui, donc ça dépend vraiment de la pression.
Donc le point de où l'eau gèle dépend de la pression. On en parlera peut-être une autre fois. Voilà.
Oui, mais c'est intéressant.
Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques, plutôt que de définir le zéro avec un truc qui dépend d'autre chose...
Donc, nous, on parle de degrés Celsius, mais vous parlez en Kelvin.
Pour toutes les...
Tu l'écris comment, Kelvin ?
C'est K, grand K. K-E-L-V-I-N.
K-E-L-V-I-N.
Là où, en fait, les gens, dans la vie de tous les jours, rencontrent le degré Kelvin sur les lampes. Quand tu achètes une lampe au magasin, surtout avec les LED, on va te dire la température de couleur est de 3000 Kelvin. Donc, c'est une unité Kelvin. Si on veut parler du Diwali, je vais pas expliquer pourquoi on utilise ça.
Non, mais ça m'intéresse. Mais oui, alors
on parle pas du Diwali, on parle de la température de Kelvin.
On va parler un peu du Diwali. Parce que c'est aujourd'hui justement.
Victor, tu nous mets une musique, mais tu mets c'est normal. On avait dit comment c'est normal parce que ça part d'un immeuble qui brûle et de l'agitation moléculaire. Donc on va mettre ça. C'est parti. La 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 la
un truc bizarre.
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors.
La, la. La, 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 la,
moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Oui, oui.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. Tout à fait normal, c'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatiguante. Définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal.
Tout est normal alors.
Voilà, c'est normal. Vous avez compris toute la science.
Oui, oui. Comme tu me disais, hors antenne, t'adores cette chanson. Je te vois bien adorer ce genre
la
de chanson.
De l'absurde. Là.
Non, donc, c'est assez drôle. Voulais,
on a assez parlé de la température là.
Ben, on a parlé juste trois quarts d'heure de la
voilà,
température.
C'est pas mal. Hein.
Mais c'était ton sujet. Je suis juste venue donner la réplique et je voulais quand même ajouter qu'aujourd'hui c'est Diwali. Ce week-end c'était Diwali, donc c'est le festival de la lumière
pour les Indiens,
en Inde.
C'est ça,
voilà. Ouais. Donc connaissant l'attraction de Brett, de notre famille pour l'Inde, on a tous été à Diwali. Sur Outer Square. Et d'ailleurs, ils ont occupé une partie de Queen Street, les stands de nourriture. Donc, la partie entre le Civic, entre Outer Square et Comedy club était barré et il y avait tous les stands de nourriture.
Donc, la rue, les voitures ne pouvaient pas passer.
Il n'y avait pas de voiture. Ouais. Hein. Il y avait du monde. Et c'est là que tu te rends compte que la communauté indienne est tellement nombreuse. Les filles me disaient, mais il y a beaucoup d'Indiens. On dit, oui, ils sont discrets, mais il y a beaucoup d'Indiens sur Auckland. Ils sont, il y a beaucoup plus que des francophones, hein, parce que des centaines, peut-être même des milliers, effectivement, d'Indiens, parés de toutes les couleurs, des femmes en sari, magnifiques, des messieurs avec, des sikhs avec, tu sais, des turbans, ouais. Bleus, roses, violets, oranges, et tout, toujours très jolis. Et puis.
Mais c'était voilà. Juste aujourd'hui ou c'est quelque chose qui
hier, est. Hier, non, longtemps. C'est juste c'est deux jours.
Ah, okay,
c'était le week-end. Hein.
Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en général, ils font des choses à l'école avec ça. Et...
Ben, ils le fêtent, oui, pendant la semaine, mais ouais. Comme c'est les vacances scolaires, je ne sais pas comment ouais. Ils ont fait. Peut-être qu'ils le fêteront la première semaine de la rentrée. Mais. Ils l'ont fêté. Là, tous les groupes de danse, dans tout Auckland, doit y avoir des groupes de danse indienne, de femmes et d'hommes, mais c'est surtout des femmes hein, qui sont sur scène et qui s'entraînent et qui pratiquent. C'est vraiment un art chez eux, donc la danse. Et on voyait des petites de 2-3 ans, 6-7 ans, des jeunes filles, des femmes, des... voilà, c'est très joli. On a pas mal regardé ça. Il y a une très très grande scène sur Otea Square, de la musique à fond et des groupes qui se succèdent toutes les dès qu'un groupe sort de scène, un autre entre. Donc et surtout c'était voilà, j'étais ravie de voir tous ces gens. Tous très pacifiques, tous en famille, des grands-parents, des enfants décorés de la tête aux pieds avec des boucles d'oreilles, de l'or partout, des tas de colliers, des bling bling bling.
Et toi, t'étais habillée comme là ou t'étais
moi j'étais bien, habillée tout à fait normale, mais Brett n'a pas pu résister à mettre sa kurta et son pantalon blanc en coton acheté à Jaipur.
Okay.
Lui, il a été et donc il a eu des compliments de la part d'Indiens, oh, très très bien, parce qu'il est, il ressemblait à un Indien
à part la peau,
sa grande taille et la peau. Et les Indiens étaient dans leur pas mal, enfin bon, il y en a beaucoup qui sont très occidentalisés, qui ont peut-être même pas ça chez eux, mais certains avaient fait l'effort de venir. Habillés comme ils s'habillent quand ils sont en Inde, je pense.
Mais c'était toute la journée, c'est ça ?
Oui, toute la journée. Et
donc il y a plein de bonnes choses à manger.
Oh, là, c'est oui, tu te régales pour. Enfin, j'allais dire pour pas grand-chose, parce qu'à force de manger des choses à 5$, ça finit par coûter quand même. Masala dosa, des petits. Mais comme on en prend souvent, maintenant, je commence à connaître ce que j'aime bien. Bon, c'est toujours assez épicé quand même. Mais si c'est assez épicé avec du yaourt, ouais, finalement, oui, ça va. Les filles sont bien habituées. Des mangos lassis. Alors, on sait lesquels sont bons, lesquels sont moins bons. On sait quelles sucreries on aime qui sont pas trop, trop écœurantes. Parce que les sucreries indiennes, c'est hyper sucré. Okay. Et tout est à base de laitage. Ils ont c'est pour ça qu'ils ne tuent pas leur vache. C'est parce que la vache est trop importante, dans leur civilisation et leur alimentation. Et tout le monde est végétarien. Presque vegan, même. Non, pas vegan, puisqu'ils utilisent les produits animaux. Mais donc il y a beaucoup de choses qui sont à base de lait, de crème, de laitage.
C'est riche.
Parce qu'il faut bien que ça.
Dans les restaurants indiens, c'est pas nécessairement.
Les sucreries.
Non, je parle pas des sucreries. Mais...
Non, c'est pas si riche que ça. T'as raison. C'est assez épicé. C'est bon.
L'autre jour, on a été avec Caroline, justement. On est allé à Little India, à Anzac Avenue, là.
Mm-hmm,
c'est parce qu'on avait un bon qu'on avait reçu du club de hockey.
Ouais.
Et moi, je crois que c'était un petit boui-boui.
C'est un gros restaurant.
Un petit indien du coin, toi.
Pas du tout.
Et en fait, c'était fabuleux. Quoi. Enfin, il était quasiment vide. Hein. Il y avait nous et deux autres tables. Il y avait plein de tables vides, mais c'était super bon, hein, impressionnant.
Oui, c'est très varié en fait. Ça dépend. L'Inde est très très grande, hein. Donc ouais. En fonction de la région, y a des cuisines très différentes, des gens qui portent des choses très différentes, des couleurs de peau différentes. C'est beaucoup plus varié que la France. Hein.
Mais j'ai l'impression que dans les restaurants indiens qu'on trouve à Auckland, enfin peut-être je fréquente pas les bons, mais c'est toujours un peu le même genre. Parce que je dis que c'est très varié, mais On voit toujours la même chose.
Mais t'as pas essayé curry, tout Non, pas du tout.
Parce qu'une fois, j'avais vu cette émission télé sur le curry, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens en Angleterre, et alors il y a des tas d'Indiens qui sont mis à faire des currys pour le goût des Anglais, et du coup les Anglais s'étaient habitués à un certain style de cuisine indienne qui était complètement déformé.
On n'est pas en Angleterre, là c'était la cuisine des Indiens.
Et du coup il y a beaucoup de restos des Indiens pas chers qui font un petit curry pas très bon, toujours un peu le même.
T'as été à Sandringham?
Oh non, je dis pas qu'ils sont tous comme ça.
Non, mais t'as été manger dans les restaurants de Sandringham?
Il y a un copain de Victor qui décrit ça, cheap Indian, tu vois, il est indien, hein, sa mère était indienne. Donc même lui reconnaît qu'il y a une certaine classe de restaurants, c'est l'indien pas cher et pas bon.
Oui, c'est normal, on fait ça pour tous les Européens. Mais tu as été manger déjeuner à Sandringham?
Quel restaurant?
Sandringham. Sandringham, c'est le quartier où il y a plein d'Indiens. Oui. Bah, dans tout Sandringham, tu as plein de restaurants indiens. Donc il y a Indian Paradise qui est très connu.
Ah oui, moi j'ai déjà mangé, enfin pas mangé là, mais c'est parce que quand je suis allée chez mon copain, ils ont mangé ça.
C'était un takeaway?
Ouais.
Mais donc tu vas là-bas et tu peux avoir une gamme de plats très très différentes. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les petites choses. On dirait des. Bon, je n'ai pas le temps à l'antenne de tout vous décrire.
Mais Blandine nous appelle, mais elle l'appelle pas donc.
Des petites boules un peu qui sont comme des tempuras qui sont frites et à l'intérieur ils mettent. Des tas de choses, des trucs verts, des tas de légumes, des sauces différentes. Et tu le manges en une bouchée et ça croque plus tout ce qui... Alors ça, c'est dur. Et puis, enfin, c'est dur, c'est le contenant. Et à l'intérieur, tu as des choses moelleuses, très différentes. Et tu peux... En fait, c'est varié. Il faut juste chercher la variété.
Ouais, peut-être que je vais toujours dans le même genre de restaurant, quoi.
Ouais.
Avec
je t'emmènerai.
Les...
Ah non, masala dosa, c'est super bon.
Ouais.
Des pompomours, pompadour.
Pompadour, ça non, c'est le truc qui craque là.
Ouais. Mmh.
C'est papadum.
C'est ça, papadum. Je crois. Mais il y a deux trucs différents. Il y en a un qui est puffy avec de l'air dedans, et puis il y en a qui sont, c'est des galettes plates, enfin.
Ouais.
Ah oui, c'est les pains là.
Ouais.
Ah
non,
oui.
Ça c'est du nam.
Ouais.
Où il y a des rôtis, mais. Quand tu vas en Inde, tu les vois cuisiner différemment dans un genre de four rond sur le côté.
Ils les cuisinent comme ça.
Ah, ils ont ça?
À Calcutta, à Parnell.
Ah, tu vois, tu connais des endroits que moi, je connais
c'est
pas.
C'est un très bon restaurant indien et ils cuisent leur naan. Tu vois le cuisiner.
Ouais, moi, ce que je préfère chez les Indiens, c'est peut-être pas leur cuisine parce que je raffole pas, mais c'est leur gentillesse. Ils sont toujours. Et puis les habits tellement. Fred aimerait ça. Des habits tellement colorés.
Toi, t'as été en Inde en touriste
ouais, deux fois, j'ai été.
C'est facile de visiter ou parce qu'il y a
on
des
a
endroits
été avec
qui
les enfants.
Peu,
non, il y a rien qui
non,
craint.
Non, pas du tout. Non.
Bah, ce qui craint, c'est
qu'il y a des endroits très pauvres. Et...
Ah oui, c'est pauvre. Mais ce qui craint, c'est ton estomac parce que tu seras certainement malade. Mais non,
donc,
c'est
pas les nains pour toi en Inde.
Ouais,
moi, enfin, j'imagine que tu suis le guide touristique aussi, mais
ça craint pas du tout.
Ouais, ok.
Et on voit que l'Inde est un pays de gens tellement intelligents, tellement ils sont brillants. Et tu vois l'intelligence dans leurs yeux. Et puis ils sont curieux. Ils ont peut-être pas eu l'argent pour aller à droite à gauche, voyager et prendre l'avion, mais ils savent beaucoup de choses sur. C'est des gens très très instruits qui s'intéressent à la politique, à l'économie.
Ouais, à l'université en général, les étudiants indiens qui arrivent d'Inde sont plutôt dans les mondes.
Ils sont curieux,
bonne éducation.
Ouais, ouais. Et j'adore avoir des discussions dans les trains. On peut faire que ça d'ailleurs. Discussions pendant des heures.
D'accord.
Et c'est très très agréable.
Ok, écoute, on va faire une émission spéciale Inde un de ces jours.
Ah, d'accord.
Bon, Victor, tu nous mets une dernière petite musique pour la dernière petite minute avant qu'on dise au revoir. On avait parlé des autotamponneuses.
J'ai envie de trouver une
et d'abord, on va dire au revoir.
Hein.
Encore voir Séverine. Merci pour toutes ces questions et pour parler de l'Inde.
Didi Wally. Merci.
Au revoir, Victor.
Au revoir. Merci pour la technique.
Au revoir, Caroline, là derrière. Je ne sais pas si on va l'entendre.
Là-bas. Au revoir.
Voilà. Et on met les autotamponneuses pour la dernière minute de Renaud, près des autotamponneuses.
Ah, Renaud, c'est bien.
Voilà, et à la semaine prochaine.
Oui.
J'ai connu la
pépette aux auto-tamponneuses. Elle avait la 7 et moi j'avais la 2. La sienne elle était verte et la mienne était verte aussi. Elle était bonne la pépette et c'était son métier, elle était boniche. Je lui ai dit tu viens souvent aux auto-tamponneuses. Elle m'a dit qu'elle venait souvent, que ça la rend.